les années 60. Salut les copains. Sur RVE.
RVE, bonne matinée. Il est 10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Les bureaux de vote ferment dans une heure en Nouvelle-Calédonie. Les près de 175 000 électeurs doivent répondre à une question. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? L'île dispose actuellement d'une large autonomie et reçoit chaque année plus d'un milliard d'euros de financement de Paris. Emmanuel Macron doit s'exprimer à 13h dès que les résultats seront officiels. Le président français qui est à Strasbourg aujourd'hui, début de l'itinérance mémorielle. Selon les mots de l'Élysée, dans l'Est et le Nord de la France, une tournée inédite pour célébrer le centenaire de la fin de la Grande Guerre. De Verdun à la Somme, le chef d'État va sillonner 11 départements en une semaine pour se rendre sur les champs de bataille de la Grande Guerre et à la rencontre d'une France périphérique frappée par la crise. La politique est pour la première fois, le Rassemblement National devance La République En Marche et le Modem dans les intentions de vote pour les européennes de mai prochain. Sondage IFOP pour la lettre de l'expansion publiée aujourd'hui. La liste de Marine Le Pen récolterait 21% des intentions de vote. La liste de la majorité, 19%. 124 victimes du terrorisme reçoivent aujourd'hui une médaille de reconnaissance pour la première fois. Cette médaille spécifique a été créée en juillet 2016 dans l'émotion qui a suivi les attentats de Paris. L'abattoir du Bois Chaud dans l'Indre est fermé, conséquence de la vidéo diffusée par l'association L214. Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a dénoncé les pratiques inacceptables de l'établissement et il a demandé au préfet de fermer l'abattoir. La brigade nationale d'enquête vétérinaire a été mandatée pour diligenter une enquête administrative. Et puis le départ de la route du Rhum tout à l'heure, un départ dans de très bonnes conditions de mer avant l'arrivée d'une dépression après-demain qui pourrait obliger les plus lents à faire escale. 123 bateaux sont en lice de Saint-Malo à la Guadeloupe. Très bonne journée.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport avec Philippe Carnu.
Effectivement, bonjour à tous et à toutes, c'est Tribune Foot le matin, hein, après donc les émissions Tribune Sport de ces dernières semaines. On avait reçu Gaël Barbotin, maire adjoint chargé des sports et des finances à la ville de Rambouillet, et puis donc une personnalité de l'audiovisuel sportif la semaine dernière, Daniel Potras. Ça va être tout foot le matin avec nos invités, ils sont tous là, on a une riche actu à vous commenter. On va commencer avec celui qui sera vraisemblablement candidat à son choix pour les prochaines municipales. C'est José Vega. Salut José. Non, je blague. Hein.
Oui. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Oui, bon, c'est encore loin. Hein. C'est ouais. Dans un an et demi. On a le temps d'y réfléchir. Bon, bah, pour l'instant, on va parler football. Et
absolument.
C'est bien. C'est
voilà.
Mieux.
Allez, il est le représentant du football, le Chi. Ça va pas très bien à Valenciennes. Ça va mieux pour Lille et Lens.
Oui, ça va mieux à Lille et à Lens. Ouais. Valenciennes, c'est pas terrible. Non. Ils sont pas loin d'être relégables. Ouais. Ouais. Surtout hier, hein, ouais. Ils gagnaient, ils prennent 3 buts en 5 minutes. Ça frise l'indécence.
Voilà, allez, on va. Il avait découvert les coulisses du Tour de France. Il retrouve le ballon rond. C'est Arnaud. Salut Arnaud, ça va? Eurosport et puis l'Écho. Ça
et
va Arnaud?
Bonjour Philippe, bonjour à tous. Et oui, ça va très bien, merci.
Ouais, beaucoup de choses à dire sur le PSG.
Oui, bah il y a du bon au niveau national et du moins bon au niveau européen. Donc maintenant, réponse mardi soir. Et je pense que le PSG va jouer beaucoup, beaucoup mardi soir à Naples. Voilà, réponse en fin de soirée.
Voilà, tiens, il est content parce que Ludovic Blas a été décisif. Hein. C'est lui qui marque le pénalty qui donne la victoire à Guingamp en Coupe de Ligue. Ouais. Hein. Ah ouais. Allez, rédacteur en chef du foot, il a beaucoup de choses à dire sur les difficultés rencontrées par nos clubs en Coupe d'Europe actuellement. Ouais, c'est notre ami Stéphane. Salut Stéphane,
tout
ça
à
va
fait. Tout à fait, hein, ça va très bien. Tout à fait. Ouais. Ça fait d'ailleurs dans le prochain numéro l'objet d'un dossier important.
Ouais, ça sera important. Ouais,
la Ligue 1 est-elle si nulle qu'on veut bien le dire?
Ah, ça sera un beau débat. Tiens, il est là avec nous, un autre vert, Bibi Moreau. Comment ça va, Bibi?
Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ça va. Oui, bon, ça se maintient, voilà, ils sont à la place où on les attendait.
Voilà. Et puis tiens, on va accueillir l'enfant spirituel de Giroud, un bourguignon, notre ami Jean-Claude Bagnon. Salut Jean-Claude, ça va?
Oui, bonjour.
Hein, la JOCR, on dit en grosse difficulté. Hein. Voilà. Alors, Jean-Claude, vous êtes venu nous parler d'un événement qui va avoir lieu la semaine prochaine. Le Variété qui, je crois, va revenir pour la quatrième ou cinquième fois à Pauline
Sixième
Laforêt. Sixième fois déjà.
Ouais.
Ouf, ça passe vite alors. Donc, le Variété qui revient, pourquoi?
Tout simplement, on a lié des liens entre Henri-Émile et puis Jacques Vendroux.
Et je sais que Vendroux aime bien venir dans le coin, que ce soit sur Rambouillet ou sur Paris.
Oui, tout à fait. Au départ, c'était un match qui était prévu à Rambouillet. Oui.
Effectivement, je me souviens.
Pour des difficultés, disons, d'organisation. Patrick Filler, qui est un habitant de Pagny-la-Forêt.
Je l'ai rencontré au Salon du Livre dimanche dernier.
Ah, d'accord. Ouais. Nous a proposé, nous a demandé si on pouvait mettre le terrain Henri-Émile à sa disposition. Bon, étant président de l'Omnisport de Poigny, j'ai demandé à mes collègues vice-présidents. Donc, les vice-présidents de l'US Poigny, c'est David Lecam pour le foot, c'est Simon Provost pour le tennis, et c'est Olivier Bourdin pour le cycliste. Donc, tout à fait d'accord pour organiser ce match. Et tout simplement, on a décidé de faire une entente entre les vétérans de Rambouillet et les vétérans de Poigny, de façon à rencontrer nos amis du variété.
D'accord. Et donc ça sera pour une œuvre caritative.
Oui, c'est pour vaincre la mycoviscidose.
Oui.
Donc c'est une œuvre, vous connaissez Grégory Lemarchand,
oui, bien sûr,
qui malheureusement est décédé de cette maladie. Mm-hmm. Et donc pour mettre un peu plus d'argent pour cette œuvre, nous avons décidé d'organiser un loto le dimanche soir.
Le samedi soir. Il y a le rugby, mais il faut venir sur le loto.
Ouais, voilà. Il faut, à 20h dans la salle des fêtes. Mm-hmm. Donc il y aura des très beaux lots. L'un des plus gros lots, c'est un écran télé de 160 cm. Il y aura des VTT, des lots gastronomiques, différents appareils ménagers et culinaires. Mm-hmm. Donc il faut venir nombreux, de façon à renforcer cette cognotte que nous donnerons donc à vaincre pour la mycoviscidose.
Et donc dimanche, 15h, le match, le droit d'entrée va être de combien ?
C'est 5 euros.
5 euros, ouais. D'accord. Okay.
Donc toute la recette sera versée intégralement à cette œuvre caritative.
Parrainée par Henri-Émile, qui a confirmé sa présence. Hein, je crois qu'il arrive dimanche prochain vers 10h.
Hein, exact. Ouais. Ah, oui, spécialement, il fait un vol Montpellier-Paris, Paris-Montpellier dans la journée. Donc c'est très sympa à lui. Il avait des petits doutes, mais il a dit non, je ne peux pas manquer le coup d'envoi avec mes amis de Poigny-Rambouillet et mes amis du variété.
Ça rappelle tellement de bons souvenirs.
On se rappelle
cette grosse inauguration du stade Henri-Émile. Tout le monde était venu. Hein, tous.
Ah oui, c'était de la folie, là.
Ouais.
Contre les cadres de l'Institut national de football. Oui, c'était de la folie.
Alors, ils vont être battus, le variété, parce qu'ils n'aiment pas être battus. Hein.
Ouais,
ils n'aiment pas être titillés. Hein.
Non, mais je sais que au niveau de la communauté, là, les entraîneurs avaient fait une super équipe et le variété s'en était sorti avec un match nul.
Ouais, si 5-5.
Ou 5-5. Ouais, ouais. Voyez,
Bon, on ne connaît pas encore l'équipe du variété, on connaîtra la composition quand ? Dimanche prochain, vous pourrez nous la donner ?
Non.
Au dernier moment ?
Mercredi ou jeudi.
D'accord, ok. Bon, dimanche prochain, vous venez nous la donner.
Oui, sans aucun problème.
Mais on aura sûrement, ça fera plaisir à Bibi Piquion qui risque d'être là. Hein.
Ah, je sais pas du tout.
Il joue avec la variété, Fred Piquet.
Oui, ça y est.
Ouais. Mmh. Stéphane, c'est bien ?
Ouais, c'est super, surtout. C'est génial, surtout quand on annonce le prix de 5 euros. Bon, c'est vrai que c'est pour une œuvre caritative, mais pour 5 euros, voir ce genre de spectacle, c'est super. Il faut quand même souligner comment se comporte le variété à chaque fois, quoi. Quand on leur répond, moi, je sais que dans historiquement, il y a très longtemps, j'avais aussi fait appel à eux pour vraiment rien. Je sais pas, tu peux nous confirmer. Je suppose qu'ils prennent rien,
ils viennent
comme ça. Comme ça aujourd'hui. Bon, Jacques Vendroux, c'est comme ça aujourd'hui. C'était comme ça il y a 10 ans. C'était comme ça il y a 20 ans. C'était comme ça il y a 30 ans. Ça a toujours été comme ça. Alors, ils viennent avec entre guillemets ce qu'ils ont sous la main.
Oui.
Mais tu parlais de niveau, effectivement. Donc, ils s'en sont peut-être bien sortis l'année dernière avec
ils aiment pas perdre.
Ils sont malins. Donc, même quand il y a des vedettes qui ont déjà un certain âge, ils se débrouillent toujours. Il y a pas mal de joueurs qui tournent, National 2, qui sont dont quasiment le job, c'est de jouer avec le variété ces matchs-là.
À chaque fois, ils mettent 3-4 joueurs de 35 ans
qui font la différence.
Exactement. Ouais. Donc, franchement, j'invite tous les gens, les supporters de foot et tout, qui de la région, à aller à ce match. Hein.
Et ce sera le 2310e match.
Oui, du variété.
Donc ça, Et donc 48 années de,
oui, bah oui, de on, compétition. On en parlera avec Jacques Vendroux, ouais. Mais c'est vrai qu'on voit souvent, ouais, sur leur site. Et voilà. Bah Jean-Claude, merci, vous restez avec nous, hein, naturellement, pour commenter l'actu foot. Hein, et puis donc la semaine prochaine, vous revenez, ouais, vous nous direz tout donc sur les dernières évolutions de l'Université. Mais c'est vrai que Vendroux aime bien quand même Rambouillet, Chevreuse, Le Perret. Il est souvent venu dans le coin. Hein,
ouais, oui,
il aime cette région. Voilà. Merci en tout cas. Allez, on va parler de l'actu foot, les Coupes d'Europe, hein, donc Paris Saint-Germain, Lyon et puis Monaco qui sont à mi-parcours. Alors je vais quand même vous rappeler que Paris Saint-Germain pour l'instant est troisième, battu à Liverpool, 3-2, défaite tout à fait logique et méritée. Victoire devant l'Étoile Rouge de Belgrade, 6-1, et puis 2-2 donc face à Naples où Paris a évité la défaite de justesse. Messieurs, est-ce qu'on peut être optimiste pour le Paris Saint-Germain avant l'abord des matchs retour? Ça passe impérativement par une victoire à Naples.
Non, excuse-moi, je ne suis pas d'accord avec toi.
Ah oui, t'as le droit.
Ça ne passe pas du tout obligatoirement pour une, ouais, victoire à Naples.
Ah, si tu fais, non,
si tu fais, ce qu'il faut surtout pas, c'est perdre. Un match nul dans l'état actuel des choses, un match nul pourrait être une très belle opération pour le Paris Saint-Germain et qui n'aurait plus qu'à de son destin entre un match nul s'ils battent Liverpool après au Parc et, oui, qu'ils vont gagner
ça suffira, tu penses?
C'est sûr, non, c'est pas, je pense, c'est sûr et certain, c'est mathématique.
D'accord, ok. T'as, mais vaut mieux gagner.
Ouais, parce que regarde, très vite fait, t'as aujourd'hui 6 points pour Liverpool, 5 pour Naples et 4 pour Paris.
Ouais,
un match nul, ça fait 5 Paris, 6 Naples, et bien Liverpool va gagner.
Bon, alors on va dire éviter la défaite.
Il vaut mieux à 9, donc 6. Après, si Paris gagne contre Liverpool, le dernier match de la poule c'est Liverpool-Naples, et un match nul ne pourra pas sera fatal à l'une des deux équipes, je ne sais plus exactement laquelle, faut tout de suite, mais en tout cas ça, il faudra que l'équipe gagne, donc que Liverpool batte Naples pour se qualifier, et à ce moment-là donc Naples sera derrière.
Bon, moi je préférerais que PSG aille gagner, Anna.
Pour faire l'affaire, elle a gagné. Les choses simples, le PSG a 3 matchs à jouer, ils en perdent un des 3, c'est fini.
C'est vrai.
Ils ont 7 points à prendre sur 9 possibles, donc le PSG effectivement a fait un match catastrophique contre Naples au match.
Et même à Liverpool, je sais que ça fera pas.
Excuse-moi, c'est pas vrai non plus ce que tu dis là. Et s'ils gagnent à Naples, et ils battent Liverpool, je pense qu'ils peuvent se permettre de perdre à Belgrade, à mon avis.
À recalculer, mais logiquement non, question mathématique.
Bon, monsieur, comment on peut expliquer quand même ces difficultés pour l'instant pour le PSG à se transcender face à Liverpool 3-2 où Paris s'en tire plutôt bien.
Et puis 2-2.
Oui, 2-2.
Sous-estimer l'adversaire. Voilà. Quand on voit les joueurs parisiens après une défaite à Liverpool, certes à la 93e minute, mais une défaite catastrophique, entendre des joueurs, c'est pas grave, on s'en remettra, on n'est pas déçu. Au niveau, déjà, tu perds ton premier match de Ligue des Champions à Anfield. Dire que tu n'es pas déçu, c'est honteux.
Oui.
Quand je vois un mec comme Adrien Rabiot qui, pour parler clairement, manque de respect au Paris Saint-Germain depuis maintenant quelques mois, qui sur le terrain ne fait aucun effort, n'a aucun repli défensif, et voilà, c'est tout simplement du manque de respect pour les supporters. C'est pas possible, il y a un manque de professionnalisme. On va parler de l'affaire Mbappé la semaine dernière, on va parler de l'affaire Verratti cette semaine. Les joueurs manquent de respect à l'institution.
Oui, c'est vrai.
Et pour moi, c'est pas comme ça que le PSG va s'en sortir. C'est pas comme ça que le PSG va gagner une Coupe d'Europe et va aller au plus haut niveau. Donc en championnat de France, on en parlait il y a un mois, oui, ça passe parce que le niveau, malheureusement, j'irai pas jusqu'à dire qu'il est faible,
moyen,
mais il est pas fort.
Il est mauvais.
Non, très moyen.
Ouais, enfin.
Il est moyen. Sauf qu'en Coupe d'Europe, le PSG, depuis quelques années, maintenant c'est le Barça, ça passe pas. C'est le Real, ça passe pas. Tu prends Liverpool et Naples, tout simplement, ça ne passe pas.
Oui, parce que c'est une équipe qui joue par bribes. Hein, quart d'heure en première mi-temps, 20 minutes en deuxième. Alors, jouer par bribes
contre Naples, je suis désolé, moi j'ai pas compris. T'es mené 1-0 à la mi-temps. Pendant une mi-temps où t'es dominé totalement et Naples méritait de mener, ils auraient même pu.
Collectivement, c'était bien.
Mais collectivement, il n'y avait rien à dire, ils étaient largement au-dessus, ils auraient pu avoir 2 buts d'avance. Le PSG se met à jouer en début de deuxième mi-temps. Il joue 15 minutes, à la fin, il marque. Égalisation méritée. Ils auraient pu continuer à jouer comme ça et aller chercher le deuxième but, mais non, terminé. Ils ont égalisé, ils se sont arrêtés de jouer, ils ont pris un but qui est certes chanceux, mais ils ont pris un but et ils s'en sortent. Ils s'en sortent à merveille avec une égalisation à la dernière seconde. Donc voilà, le PSG.
À Liverpool, c'est un peu pareil. Hein. 3-2, mais
comme Arnaud le dit, il leur manque peut-être l'amour du maillot. On l'a répété à plusieurs reprises ici.
La culture.
Ils n'ont pas la culture et l'amour du maillot.
C'est la culture.
Arnaud le dit, le manque de respect envers le club et envers les supporters.
Il y a cette culture, et puis on va pas refaire le débat.
On va parler de Lyon et
voilà, 14 matchs sans défaite, on est content, c'est le record. Mais il n'y a rien dans le championnat de France.
12, là.
Ou 12, enfin, ça, 12, ouais. Ça sera 20. Ouais. Moi, je souhaite qu'une seule chose, ouais, sincèrement, du fond du cœur, hein, en tant que supporter stéphanois, je souhaite qu'une seule chose, c'est que Paris gagne tous ses matchs en championnat pour qu'on s'aperçoive combien la situation est ridicule, quoi. Mmh. Voilà, il n'y a rien, il n'y a pas d'opposition. Mais c'est ce qui fait le tort au PSG. Moi, je ne veux pas refaire toujours, redire la même chose, mais dans le temps. En Coupe d'Europe.
C'est ce que je disais le mois dernier. Bon, pas cette année, mais Bayern, pendant des années, ils ont survolé le championnat allemand. Ils étaient régulièrement en quart ou en demi, voire même en
finale. Oui, mais il y a cette culture, il y a cette culture, Philippe. Voilà. Il y a cette culture. On parle du Bayern, on parle du Barça. Il y a cette culture.
C'est vrai.
Demain, enfin, avec les moyens qu'ils ont.
Bah, c'est les Qataris qui font ça.
Mais je pense. On a Marseille l'année dernière. Marseille l'année dernière, qui n'avait pas forcément un grand club. Il y a la culture du football à Marseille. Les gars, ils ont été en finale. De la Ligue Europa, voilà, et pourtant ils n'avaient pas une équipe.
Cette fameuse
cette culture.
Cette fameuse
mettez les Ch'tis, mettez Lens ou des trucs comme ça en Europa League ou même en Champions League, ils n'iront pas jamais.
Les joueurs, c'est comme les joueurs étrangers qui viennent à Paris, c'est comme des mercenaires, ils viennent prendre leur chèque et pas.
Excuse-moi, pas des mercenaires, ils se battent au combat.
Non, mais je veux dire, ils viennent pour prendre le chèque et après ils s'en vont dans
le équipe. C'est quand même un faux procès qu'on est en train de faire, parce qu'on est en train. Vous vous rendez compte juste qu'on est en train de résumer tout le problème du football français avec les Coupes d'Europe.
Alors justement, je
au cas unique du PSG, qui est un cas, de toute façon, comme on dit nous-mêmes, comme vous venez à l'instant de le souligner, qui est un cas complètement à part dans le championnat de France. Donc le vrai problème, il n'est pas là. Voilà, le vrai problème aujourd'hui, c'est comment ça se fait que Bordeaux n'a pas gagné un de ses trois matchs. Comment ça se fait que Marseille va faire un match nul contre Limassol, niveau National 2, National 3 en France. Comment ça se fait qu'ils perdent contre Francfort. Le vrai problème, il est là. Comment ça se fait que les Verts, nos amis les Verts, quand ils ont été il y a 2-3 ans, ils ont fait des campagnes européennes, ils étaient 8e, c'était un exploit d'arriver en 8e, je crois qu'une fois ils ont été en
8e. Parce qu'il n'y a pas de banc, il n'y a rien du tout. Tu fais le championnat avec 8 joueurs.
Je suis d'accord, d'accord, c'est une question, nous, dans le dossier qu'on fait là. Effectivement, je suis tout à fait d'accord sur le mot, c'est une question de culture. Il y a à la fois sur un plateau télévision, il y avait un Laroche qui était invité, donc ancien grand joueur du Paris Saint-Germain, et disait, on se bat toute l'année pour qualifié, mais quasiment au début de l'année, puisque Paris a été abonné à certaines énormes contre-performances en Coupe de l'UEFA à l'époque, même s'il en a gagné une, Coupe des Coupes, et on nous disait carrément qu'il fallait pas la jouer. Quoi. Donc il y a un problème, effectivement, de culture, peut-être aussi, aujourd'hui,
de
culture tactique, pas de pognon, Limassol. Si, Marseille fait un match nul à Limassol, il n'y a rien à voir avec le pognon là-dedans. Match nul quasiment qui les plombe et les élimine.
C'est des mecs, ils ont fait un match à Limassol, c'est des mecs qui ont fait je sais pas combien de matchs avant, qui joueront tous les matchs du championnat et le peu de matchs qu'ils joueront en coupe. Parce que Paris
on a le sentiment, Stéphane, ce qui est grave, c'est que cette année, les clubs français jouent les Coupes d'Europe, mais ils perdent.
Oui,
on a vu Rennes qui est battu par 4-2. On peut pas dire qu'ils aient pas
joué. Tu dis, t'as pas forcément tort. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais t'as pas tout à fait tort quand tu parles d'argent. Je sais pas si c'est d'argent, mais le gros problème qu'on fait apparaître aussi dans le dossier, c'est le problème, effectivement, de banc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu veux faire souffler des joueurs des joueurs principaux de ton effectif pour des grands matchs ou de championnat ou autre, tu mets des remplaçants, et le problème c'est que les remplaçants ne sont pas au niveau. La question qu'il faut aussi se poser, c'est pourquoi ces remplaçants sont pas au niveau. Ces remplaçants ne sont pas au niveau parce que en France, en Ligue 1, un joueur qui passe les 15-20 matchs, quel que soit son âge, à partir du moment qu'il a une vingtaine de matchs en Ligue 1, par exemple, il veut partir. Il veut partir parce qu'il veut du temps de jeu. Je veux du temps de jeu, ça me plaît pas et tout. Il veut partir. Donc, il part. Donc, les seuls joueurs qu'on a à peu près performants aujourd'hui en Ligue 1 sur les bancs de touche, à part, peut-être le Paris Saint-Germain, ce sont des joueurs qui sont talentueux, certes, mais qui sont très jeunes, donc qui n'ont aucune expérience. C'est pas des mauvais joueurs quand on met d'autres joueurs à la
Paris. Excuse-moi, quand tu auras le banc des remplaçants du PSG, c'est Diaby, c'est Nkunku, c'est des mecs comme ça. Hein.
Aujourd'hui, le PSG, Stéphane, a beaucoup de banc. Ça veut dire que Séville.
Il faut pas dire n'importe quoi. Dis pas ça. Tu peux pas dire ça. Le banc du remplaçant contre Lille, c'était Cavani dans les tribunes parce qu'il était blessé.
Je suis pas d'accord. Mais au niveau du PSG, on peut pas comparer le PSG avec n'importe quel autre club de Ligue 1. Tu prends le banc du Real, le banc du Bayern, le banc du Barça, n'importe quelle équipe, ils ont des stars sur le banc.
Kimpembe, champion du monde. Là, il était suspendu. D'accord.
Kimpembe, champion du monde. Exemple, il est
Cavani demandé par
tous les.
Kerrer, c'est un très bon joueur.
Kerrer, on le connaissait il y a deux mois.
Mais c'est un très très bon joueur.
Oui, ok, Kerrer, 21 ans, on connaissait pas il y a deux mois, c'est un jeune espoir. C'est personne, Kerrer. Kerrer vient d'arriver, c'est un petit jeune prometteur, mais c'est un jeune comme Diaby qui est prometteur.
Draxler.
Oui, là, je suis d'accord. Ok. Ok,
Kimpembe, champion du monde, s'il n'est pas titulaire. Non, ou Thiago Silva, ou Marquinhos.
Ceci dit, mais tout messieurs, ça, c'est des titulaires. Le 11 titulaire du PSG, on le connaît, tout ça, c'est des titulaires, pas moins titulaires.
Voilà, ceci dit, vous parlez de vos remplaçants. Chez nous, on a des titulaires qu'habitent Limour, qu'on a rencontré il n'y a pas longtemps. Non, mais c'est ça.
Il veille sur lui.
Oui, mais Mickaël Panos, notre chéri, notre petit jeune qui est venu porter notre couleur. Il a quel âge, Mika?
Ouais, il a
21 ans, je crois.
20 ans.
Voilà. Titulaire. Il rentre dans le football français. On ne connaît ni Deb ni Dadan. Maintenant, j'espère qu'on va le connaître. On fait tout. Faut comparer, c'est comparable, messieurs.
Mais oui, oui.
Mais le problème, quand je parlais d'argent pour le PSG, nos clubs, ils n'ont pas d'argent en France. Et ça fait du tort à tout le monde, y compris au PSG, il n'y a pas d'opposants.
Ils n'ont pas d'argent ou ils n'ont pas d'argent,
ils se font piller aussi nos jeunes joueurs. Voilà. Parce que le nombre de jeunes joueurs qui jouent à l'étranger, c'est invraisemblable. Hein. On ne parle toujours que des vedettes, mais il y a des petits jeunes qui jouent à l'étranger, il y en a un paquet. Hein.
L'autre question, t'as pas forcément tort, mais c'est beaucoup, à mon avis, quoi, à mon avis, à moi, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a effectivement ce problème, laissons le débat sur le PSG de côté, mais le problème de remplaçant, je parle de Bordeaux, de Rennes, à ceux qui sont même dans le Lyon encore, ils s'en sortent pas mal. Le problème, c'est aussi de savoir est-ce qu'on s'est recruté. Est-ce qu'il n'y a pas des joueurs qui ont été achetés? Est-ce que moi je pose la question. Je prends un club comme Marseille par exemple. On dit on n'a pas d'argent, donc parlons de Marseille qui a beaucoup moins d'argent que Paris, même peut-être que Lyon. Est-ce que ils ont dépensé leurs 50 millions, 55 millions pour le recrutement cet été? Est-ce qu'ils les ont mis au bon endroit?
Mais Marseille, c'est tout. Marseille, ça fait deux ans qu'ils cherchent un avant-centre. Ils sont pas capables de trouver.
Après, il y a Bordeaux. Est-ce que Bordeaux, hier, effectivement, il les fait gagner un point à Cornelius. Est-ce que Bordeaux prend un joueur en prêt avec une option d'achat à 8 millions d'euros? C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver à payer 8 millions d'euros à la fin de l'année pour Cornelius, par exemple. Bon, il a marqué un but important hier. C'était effectivement son premier but. Pour finalement, il préférait un joueur de 34 ans ou 35 ans, je sais pas quel âge il a, pour le faire.
Après, je crois que vous êtes mieux placés que nous, messieurs les journalistes, pour savoir que quand il y a les transferts, quand on voit toutes les listes, moi je vois Saint-Etienne, quand on annonce tous les noms sur lesquels Saint-Etienne ils sont. Putain, Saint-Etienne ils scrutent, hop, tac, tac, les cellules de recrutement, ça y va. On veut tel joueur, tel joueur, tel joueur, tel joueur. Et quand à la fin on voit qu'il y a des clubs qui proposent plus pour tel joueur, voilà, tout ce qu'on a ciblé de toute façon, déjà une, et Luc avait raison la dernière fois. Les mecs, ils veulent plus s'embêter à venir dans le championnat français parce qu'ils savent très bien qu'ils ne vont rien gagner. Ils ne vont rien gagner. Donc c'est chiant pour un joueur de venir là en se disant on n'a pas de championnat, on n'a pas de
coup. Zambo Anguissa, quand il signe à Fulham, il pense qu'il va gagner quelque chose.
Oui, non, mais c'est dit. Il joue dans le championnat anglais. Non, mais c'est notre truc. C'est peut-être un cas d'exception. Bon. À Saint-Etienne, on a eu la chance de faire revenir Mvilla, de Buchy. C'était des mecs qui étaient là pour se relancer, mais c'est pas non plus des vedettes. Voilà. Je veux dire que c'est le problème en France. Les mecs, ils veulent plus. Quand il y a des clubs étrangers qui sont en concurrence avec nous sur des joueurs, on sait très bien que les mecs, ils vont pas venir chez nous.
Mais là où je suis pas d'accord.
Mais si.
Le problème, c'est que tu vas en Espagne, à moins d'aller à Barcelone ou à Madrid, tu vas rien gagner. Tu vas en Allemagne, à moins d'aller au Bayern ou à la limite, à Dortmund,
c'est pareil.
Peut-être prendre une Coupe d'Allemagne, mais
la différence, elle n'est pas comme en France. En France,
je ne suis pas du tout pour cet argument.
Philippe, permets-moi, moi, je voulais juste revenir sur une chose au Paris Saint-Germain. C'est que, on va se dire un truc, au Paris Saint-Germain, c'est blindé de thunes, mais on a un club plein d'amateurisme. La semaine dernière, il s'est passé quelque chose de très bien. Mbappé, Rabiot arrive 10 minutes en retard, visiblement.
Il était en train de regarder le classico espagnol.
Voilà, hein, il regardait le classico. Manque de professionnalisme. Ouais. Et on a eu un mec qui a eu la folle idée les mettre sur le banc des remplaçants. Et c'est quelque chose en 6 ans, Paris Saint-Germain, qui n'est jamais arrivé.
C'est beau, les gars.
Mais voilà, c'est ça. C'est ça. C'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens.
Chez nous, tu fais ça dans n'importe quel club. Voilà. Ils attendent pas les mecs. Voilà.
On est entièrement d'accord. Sauf que là, Tourelle. Grand entraîneur professionnel, on verra si ça donne quelque chose au niveau résultat. Mais en attendant, pour moi, c'est quelqu'un qui monte de la prestance, qui écoute des joueurs.
Lui, je critique pas, mais tous ces trucs-là, c'est du folklore. C'est pas ce qui va résoudre le problème du foot français.
Mais ça met enfin un peu de professionnalisme dans ce
club-là. C'est vrai que
ça met enfin du professionnalisme.
Moi, je pense que du professionnalisme, pour résumer, je pense que le professionnalisme, c'est ce qui manque dans tous les clubs français. Oui. Les directeurs sportifs, tous les sports. Parce que ça,
c'est peut-être
effectivement, cet exemple que vient de citer Arnaud, il est quand même très révélateur et très intéressant. Parce qu'on parle du PSG, mais j'aimerais savoir si par exemple, avant un Lyon-Saint-Etienne, par exemple, avant Lyon-Saint-Etienne dans 15 jours. J'aimerais savoir si jamais Cazeri arrive 5 minutes en retard à la causerie, si jamais Jean-Louis Gasset il met sur le banc. Sincèrement, je pense pas.
Ouais, mais
sincèrement,
je pense pas.
Bah non. Mais déjà, voilà, on parle des matchs. Bah, c'est très bien de prendre le derby parce que Paris pourrait peut-être s'en inspirer pour la Coupe d'Europe. C'est que nous, le derby, on le prépare à l'avance déjà. C'est dans notre culture. Donc, on revient à ce qu'on disait. Donc, ce match.
Tu ne seras jamais en retard, en fait, à la causerie. C'est ça que tu es en train de me dire.
Voilà.
Je pense que tu as raison.
C'est la culture.
Bon. Ouais, tout à fait.
Messieurs,
ouais.
On va envoyer la pub et puis on reparle de tout ça après. On y va.
Brifaut Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Brifaut Électricité motorise vos portails, vos portes de garage et assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 50 ou sur notre site brifaut-électricité.com.
Vous voulez devenir propriétaire dans un cadre rural avec une qualité de vie exceptionnelle, avec des équipements adaptés, une école, niveau maternel et primaire, des équipements sportifs, une médiathèque, une salle polyvalente et des associations dynamiques? Pont-Évrard, à 3 km de Saint-Arnaud en Yvelines, est un village dynamique, résidentiel, adapté pour accueillir votre famille. Il est desservi par des lignes de bus régulières et situé à proximité d'une gare routière vers RER et TGV et de l'autoroute A10 à 11. Alors découvrez le lotissement Lorée du Bois en lisière de forêt à Pont-Évrard. Et il est éligible au prêt à taux zéro. Contactez la mairie, 5 places de la mairie, au 01 30 41 22 13. 01 30 41 22 13. Changez de vie et devenez Ivry Pontin.
Nouveauté à l'Abbatienne de Menuiserie. Améliorez les performances énergétiques de votre habitation et faites des économies d'énergie en optant pour l'isolation par l'extérieur. Demandez vos devis gratuits au 01 34 85 87 32. 01 34 85 87 32. Abbatienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure, reconnu au Grenelle de l'Environnement. Showroom, 27 rue de Chartres, opéré en Yvelines. Voir conditions magasin.
RVE.
Région avec RVE.
Voilà, donc ça c'était pour le Paris Saint-Germain. Lyon, messieurs, 5 points, est-ce qu'ils vont se qualifier? C'est un groupe dont ils peuvent sortir. On va rappeler qu'ils ont gagné à Manchester City 1-0. Ils ont malheureusement concédé nul à domicile devant Donetsk 2-2. Et puis 3-3 à Hoffenheim en ayant mené au score. Lyon peut sortir de la poule?
Alors, normalement, Lyon doit sortir de la poule. Maintenant, c'est une équipe qui nous a prouvé quand même depuis le début de saison qu'ils étaient capables de faire tout et n'importe quoi. Et Lyon peut très bien se faire bananer mardi et perdre sur sa pelouse face à Hoffenheim. Hein, quand tu vois le match qu'ils ont fait hier contre Bordeaux, donc ça peut très bien arriver. Mais c'est vrai que normalement, ils devraient sortir. Et eux pratiquement, ils ont plus qu'à battre Hoffenheim là à ce match-là et après limiter les peut-être un nul à l'extérieur, puis ça sera plié quoi.
Attention à Manchester City qui va peut-être venir prendre sa revanche.
Lyon c'est un autre phénomène, ils vont te faire un exploit fou malade à Manchester. Ils font n'importe quoi contre le Shakhtar c'est historique, mais derrière ils font n'importe quoi contre le Shakhtar et Hoffenheim. Donc aujourd'hui Lyon s'en sort miraculeusement, idem une égalisation à la dernière seconde. Ils sont égalisés à la dernière seconde par Hoffenheim, alors qu'ils étaient dominés tout le match. Ils auraient pu le perdre, ils auraient pu le gagner, ils auraient pu faire match nul, ça se finit à 3 partout. Aujourd'hui, Lyon devra battre Hoffenheim au Parc OL. C'est pas joué parce qu'Hoffenheim, ça joue bien au foot. Et là, on a une différence de culture entre le foot allemand et le foot.
C'est une toute petite ville, je crois, 4000 habitants en plus.
C'est possible. Le Shakhtar à l'extérieur, c'est un déplacement au fin fond de l'Europe. C'est pas fait. Ouais. Et puis recevoir Manchester, ils vont avoir les crocs, ils se sont fait manger au match aller par Lyon. Lyon aura des matchs de foot à jouer, donc c'est loin d'être fait. Mathématiquement, ils en sont très loin aussi, ils ont 2 points d'avance sur le 3e et le 4e. Ça va être très compliqué aussi pour Lyon, il va falloir se sortir les doigts de là où je pense, pour espérer passer le premier tour aussi.
Je pense quand même qu'une victoire contre Hoffenheim, ça sera vraiment 90% de la qualification.
Oui, mais si tu te fais taper à Donetsk.
Je sais pas le
3200 habitants.
Ils ont combien de points
Hoffenheim?
3 points. Ouais. Donc une victoire, tu les mets à 5 points si tu les bats.
C'est un groupe ouvert quand même.
Tu les bats Hoffenheim. Donc même tu te fais taper à Donetsk et puis Hoffenheim ils vont jouer ils joueront quand même Manchester City ce jour-là, je crois. Donc c'est pas évident qu'Hoffenheim prenne les points et tout. Non, c'est pour ça que je dis 80-90% de qualification. Oui. Mais je jouerai pas mon salaire sur la victoire de Lyon contre Hoffenheim.
Bon, par contre, tu peux jouer ton salaire sur Monaco. C'est fini, Monaco. Quoi qu'il arrive, battu par l'Atletico 2-1 chez elle, battu 3-0 à Dortmund. Ils vont jouer l'Europa League en ayant fait le nul à Bruges.
Le match le plus important de la saison pour l'instant pour Monaco, c'est jeudi contre Bordeaux.
Ils vont chercher la qualification pour l'Europa League.
Mardi ou mercredi, mercredi, je crois, à 18h ou mardi. Contre Bruges, hein.
Oui. Ils ont une occasion exceptionnelle. Monaco n'a plus gagné depuis 14 matchs.
Je crois que la Coupe d'Europe cette année, enfin Monaco, de toute façon, ils sont au-dessus, ils y vont plus.
Hein. Ils vont simplement jouer une reversion, ils vont plutôt
essayer de jouer le maintien plutôt que de penser à la Coupe d'Europe.
Je pense qu'à Monaco, il pense à fond à la Coupe d'Europe. D'ailleurs, il avait dit même avant d'aller à Bruges en Ligue des Champions.
C'est triste de voir une équipe comme ça qui est réellement manque de confiance.
Je sais pas si on se rend compte quand même que cette année en Coupe d'Europe, Paris peut sortir, Lyon peut sortir, Monaco sort, Marseille va sortir, Bordeaux va sortir, et Rennes.
Alors, on va y venir.
C'est un club quand même qui pourrait se faire sortir les 6 au premier tour et à vérifier dans les cartes.
Comment ça se fait ça?
Mais c'est vrai que.
Voilà. Ce qu'on a dit tout à l'heure.
On est pauvre.
Monaco, c'est encore un cas à part. Au niveau sportif, c'est zéro. Ils ont peut-être le pognon maintenant parce qu'ils ont vendu les meilleurs joueurs qu'ils avaient. Mais au niveau sportif, il n'y a plus rien. C'est zéro. Et vous pouvez mettre le meilleur entraîneur du monde avec l'équipe qui l'a.
C'est une équipe en manque de confiance.
Je suis absolument pas d'accord. C'est exactement pareil. Je dis pas que j'ai forcément.
Ils ont souvent vendu les joueurs.
Ils ont vendu tous leurs meilleurs joueurs.
Moi, je suis pas d'accord. Je pense que.
Depuis 3-4 ans, ils font que ça.
La politique du club, elle est.
Ne me dis pas quand même que Monaco aujourd'hui, il a un effectif inférieur à l'effectif de Nîmes, qu'il a un effectif inférieur à l'effectif de Dijon.
Non.
Nîmes est 12e, quoi. Et Monaco a 7 points, Nîmes en a, je pense,
non, mais
a
je veux moins, dire,
pratiquement. Non, mais ils ont perdu des joueurs.
Je veux dire, par là, ils n'ont pas l'équipe pour rivaliser avec le haut du tableau.
Non,
avec les 3 premières places.
Avec même les 8 premières.
Comme il y a 3-4 3-4 ans.
Ils ont quand même l'équipe pour se maintenir ou rivaliser avec
les Sud.
Heureusement. Ils ont perdu contre Dijon hier, je crois.
Non, contre Arras.
Mais la politique actuelle du président russe n'est pas bonne. Vendre des meilleurs joueurs pour récupérer ses pognons. Tu peux pas gagner. Tu peux pas gagner sur les deux tableaux.
Je pense que le problème de Monaco à l'heure actuelle, c'est plus un manque de confiance.
Exactement.
Les joueurs. Puis quand il y a un manque de confiance dans une équipe, nous on l'a eu avant l'arrivée de Gasset. On l'a eu pendant toute une première partie de saison. Et c'est dur les mecs. Hein.
Pas toute la première partie.
Pratiquement.
Parce que quand il s'en va, votre ami, votre grand technicien espagnol, là, ils sont cinquième, je crois.
Mais après, ça a été le fond du gouffre. Ouais. Donc quand on commence à jouer comme Monaco, qu'on arrive, qu'on joue la relégation, qu'on est. C'est dur, hein. Quand on s'appelle Monaco.
Monaco, je suis désolé, quand il y a un an et demi, t'es en demi-finale de Ligue des Champions contre la Juve et que t'en es là parce que tu vends.
T'es un bon champion de France, en plus.
Je suis pas d'accord. Je suis désolé. C'est comme pour le PSG, l'argent. Donc quand ils font un mauvais résultat, c'est que tout était de la faute de l'argent. C'est pareil pour Monaco. Monaco n'en est pas là parce qu'ils ont vendu
des joueurs phares.
Monaco en est là parce qu'ils n'ont pas su, je pense. Notamment, moi, j'avais été un des premiers avant qu'il se fasse écarter en disant que Jardim, il n'avait plus du tout la main, il savait plus quoi faire, il était complètement perdu. Je pense qu'ils en sont, notamment, je repense au match à Saint-Etienne, l'équipe qui l'aligne à Saint-Etienne ce jour-là, même si elle a failli, si elle avait planté ses buts, elle aurait pu faire un résultat, c'était hallucinant, quoi. Mais, et parce qu'il a perdu, donc, mais il y a eu un accident en cours de route différent, mais c'est pas, je pense, la politique. Effectivement, s'il avait encore aujourd'hui Bernardo Silva, Mbappé, ces mecs-là, ils arrivent à être plus forts que tout. Et effectivement, ils n'en seraient pas où ils en sont aujourd'hui. Mais je suis désolé, avec l'équipe qu'il a sur le papier, les mecs, les demi-finalistes ou les champions, Jemerson, Glick, avec Falcao qui est encore là, avec Aïd Benacer, avec Aolu qu'ils ont recruté, avec Chadli, avec encore d'autres, Golovin, personne ici va dire que c'est pas un excellent joueur, Golovin. Ils ont une équipe qui vaut largement, effectivement, un effectif, je pense, même supérieur sur le papier à celui, on va dire, on s'arrêtera à la huitième, même presque
huitième, dixième,
supérieur à celui même de Montpellier qui fait des super résultats, quoi.
Voilà, c'est
même, ils ont qui est trois, qui peut être troisième, même deuxième, je crois, en cas de victoire ce soir.
Même huitième quand Monaco, c'est insuffisant.
Mais je suis tout à fait d'accord. Donc si Monaco était huitième, on pourrait dire Monaco en est là aujourd'hui à cause de la politique des dirigeants de la principauté. Mais ils en sont pas là d'être 19e à cause de la politique sportive des dirigeants de la principauté. Ils en sont là parce qu'elle a été mal gérée, quoi. Moi, c'est mon point de vue. Elle a été mal gérée, Aoulou, tout le monde le voulait, par exemple. Le mec, il est méconnaissable, quoi. Il joue, il est méconnaissable. L'été dernier, tout le monde le voulait, ce joueur. Je veux dire, il y a plein, Golovin, je t'en parle pas, c'est la Juventus, je crois, qui avait mis 35 millions, 40 millions pour avoir Golovin, quoi. Je veux dire, et tout le monde le voulait. C'est vrai que c'est super étrange. Maintenant, oui, il y a au-delà de la politique sportive d'avoir viré, ils ont des gardiens. Bon, moi, j'ai jamais porté Soubagis très haut dans mon estime, mais de toute façon, il joue pas parce qu'il est blessé. Mais leur deuxième gardien, il n'est pas dans le top 10 des gardiens de Ligue 1, quoi. Donc effectivement, il y a peut-être des faiblesses à certains endroits.
Certains postes, oui.
Mais 19e, c'est pas le résultat d'avoir vendu.
Ce qui est grave, c'est quand même d'être, en deux ans, d'être tombé aussi bas avec cette politique. C'est quand même dommage. Bon, l'Europa League, quatrième, c'est la Coupe d'Europe des quatrièmes, cinquièmes.
L'Europa League.
Aucun club risque de passer. Bordeaux va se faire éliminer, 0 points. Hein, Bordeaux battu par le Slavia Prague, 1-0, battu par Copenhague à domicile 2-1. Et puis nul, battu par le Zénith Saint-Pétersbourg 2-1. Marseille, troisième ballotage très 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 défavorable pour les Marseillais, battu par à domicile par l'Azo 3-1, battu aussi par Francfort 2-1, et puis nul 2-2 à Limassol.
Philippe, ça fait maintenant 3 ans ici que je répète, l'Europa League, c'est la Coupe de la Ligue.
Ouais. C'est la Coupe des 4e, 5e.
Et les clubs français, c'est les petits clubs de la Ligue.
Ça, c'est pas normal.
Ouais. Voilà. C'est vrai. Donc, c'est il y a pas de jeu.
Donc Bordeaux éliminé, ça s'est fait. Marseille s'est très mal engagé.
Bah, Marseille, comme c'est, Marseille c'est KO à 99% quand t'as un point, quand t'es dernier avec un point au bout de trois matchs.
Mais c'est quand même bien la preuve, comme je disais tout à l'heure, c'est bien la preuve à mon avis que c'est un problème de culture.
Oui.
Parce que dans l'Europa League, tous les adversaires des clubs français, là si on prend les adversaires des clubs français, on n'est pas surdominé au niveau puissance financière, au niveau c'est que des niveaux de culture.
Je suis désolé, voilà. C'est simple. Marseille dans son groupe, la plus grosse équipe à part enfin c'est Francfort.
Il y a Francfort.
Voilà.
Non, la c'est la Lazio quand même.
La Lazio, je veux bien en discuter, mais je suis pas sûr que sur le papier Marseille soit plus faible que Francfort. L'année dernière, Marseille était finaliste de Ligue Europa.
Oui,
et cette année, se retrouve à se faire taper par la Lazio, à se faire taper par Francfort. Et à se faire sortir
avec pratiquement les mêmes joueurs.
Avec pratiquement les mêmes joueurs.
Francfort qui est venu gagner au Vélodrome, je crois qu'ils devaient être. Peut-être relégable, je crois, à l'époque. Et là, ils sont un peu remontés depuis. Je crois qu'ils sont en milieu de tableau, mais ils étaient à l'époque quasiment relégables, quoi. Non, mais c'est bien ce que je dis. Au niveau des effectifs, je pense des budgets, des moyens et des même presque de l'historique. Francfort, alors Lazio, effectivement, c'est encore pas, et Limassol, c'est largement à la portée de la tuer pour prendre l'Olympique de Marseille.
Marseille de
et donc, c'est un problème de culture, peut-être de culture, c'est dur aussi, puisque l'année dernière, même si on remarque.
Enfin, Limassol avec Nicosie et tout, c'est quand même, ils jouent c'est les habitués de la Coupe d'Europe, même si c'est pas des poudres de guerre. Même, enfin, faut arrêter de dire aussi que les clubs chypriotes ou que les clubs grecs, ils sont tous.
Quand même.
Mais le meilleur exemple, c'est de voir l'Islande, hein. Maintenant, il n'y a plus. Les gars, ils se battent, voilà.
Bibi, quand t'es l'Olympique de Marseille, tu répètes, nous, on a la culture de la guerre, on est à jamais les premiers, on est ceci, on est cela. C'est inadmissible de ne pas passer le premier tour de Ligue Europa. Surtout que je suis désolé, Marseille n'a pas une équipe si catastrophique que ça sur le papier par rapport à il y a 2-3 ans.
C'est le problème de toute façon des Français, la culture de la gagne. C'est pas parce que t'as la culture de la gagne ou l'envie. On avait, quand on s'est fait sortir en Ligue Europa, on avait la culture de la gagne, on avait tout ça, on est tombé contre Manchester, qu'est-ce que tu veux faire? Il y avait un niveau au-dessus, on a perdu.
En faisant des bons matchs.
Et même eux nous ont dit, Lyon, Saint-Etienne, c'est
Manchester, tout. Manchester, je me rappelle un super match.
Attends, donc après, c'est ça.
Est-ce qu'on les prépare aussi dans de bonnes conditions? Je serais curieux de voir comment sont organisés les voyages. Est-ce qu'on prend l'avion le matin pour jouer
le soir?
Je pense que c'est bien organisé, mais je suis persuadé que les dirigeants prennent un calendrier au début de saison. Ils se disent, Dijon en Ligue 1 samedi soir, on va jouer parce que c'est la Ligue 1, faut à la fin de la saison aller chercher l'Europe, aller chercher la thune. Par contre, un petit match à Francfort ou à la Lazio, ça apporte rien. On va la jouer parce qu'on a gagné l'argent l'été. Ouais. Et arriver au match européen, ça sert à
rien. Je suis d'accord avec toi.
C'est très grave.
Non, mais c'est comme ça.
C'est exactement ce que je pensais aussi. C'est ce que je pensais aussi. Et j'avoue avoir été particulièrement, par exemple, super étonné par la gestion du match et par le match Marseille-Lazio. J'étais super étonné, quoi. J'étais persuadé avant le match que, de toute façon, 4 jours avant le Classico, l'OM ne jouerait pas le match, quoi, ne jouerait pas. Et j'étais persuadé que dès qu'il allait avoir un ou deux buts d'écart, Garcia, il allait retirer ses meilleurs joueurs à tout. J'en ai même pas la question. Tu vas voir s'il perd, c'est ce qui s'est passé, je crois. Il perdait 2-0 et il a laissé tous ses meilleurs joueurs sur le terrain. Moi, j'ai été très étonné. Alors, je pense exactement dans ce que vient de dire Arnaud en disant ce match-là pour eux. De toute façon, Garcia, s'il termine pas sur les trois premiers, il a beau avoir prolongé ou pas prolongé, il va dégager, quoi. Donc, pour le plus important pour lui, c'est effectivement, alors on va voir là, autre question, on va voir quelle équipe il va présenter sur le terrain à Rome la semaine prochaine. Pareil, je serais étonné qu'il y ait les principaux cadres de l'équipe et tout. Je serais étonné.
Alors le meilleur exemple, parce que c'est pas l'exemple de Rennes. Hein. Je sais pas si vous avez vu le match contre Kiev, 2-1. Rennes qui fait le jeu en deuxième mi-temps, qui doit gagner ce match contre une équipe à 10, et à l'arrivée, Rennes est battu de 1 par Kiev. Quoi. Donc ça, c'est pas logique. Même s'ils ont battu Zablenek 2-1 et qu'ils ont gagné, ils ont perdu Astana 2-0, ça représente quand même une impuissance.
Pour moi, dans le
ils doivent gagner le match.
Dans le parcours de Rennes, c'est un accident dans le parcours de Rennes. Le plus grave, c'est la défaite à Astana 2-0.
Oui, 2-0.
Parce que là, le match, effectivement, je l'ai vu. Après, Nous, moi j'aurais tendance à dire qu'on n'est pas si nul que ça. Donc je vais me faire insulter quand je dis ça. Au contraire, j'aurais tendance à être plutôt optimiste en disant on n'est pas si nul que ça. Bon, c'est vrai que cette journée, la semaine dernière, quoi, il y a 15 jours,
trois défaites, trois nuls.
Voilà, ça a été vraiment un concours de circonstances incroyable, quoi. Ça a été un concours de circonstances incroyable. À la fois, c'est vrai. À la fois le but de Di Maria, la dernière seconde quasiment, qui sauve le PSG, mais à la fois aussi ce match Rennes-Kiev.
Ils dominent toute la deuxième mi-temps, ils sont à 10, Kiev et gagnent le match.
Limassol, on parle tout à l'heure de Limassol, moi je pense que... il gagnait combien? Il y avait 2-0? Non, il y avait 2, il y a eu 2-1. Ils se sont relâchés. Ouais, c'était inadmissible. Oui,
mais comme au lieu devant Fenaille, il mène et puis 3-3 après.
Mais comment on peut expliquer le manque
d'application
et de motivation dans les matchs?
C'est le débat, mais je pense que ce jour.
Où est le problème?
Il y a une conjoncture qui a fait que cette troisième journée des Coupes d'Europe, il y a tout qui s'est ajouté, quoi.
Il y a un manque d'application des joueurs,
alors encore une fois, le Paris Saint-Germain, je pense que c'est un problème à débat qu'il faut négocier, discuter différemment. Mais pour les autres, c'est effectivement ce qui s'est passé. C'est pareil, Bordeaux, j'ai pas vu tout le match, Bordeaux. Ouais. J'ai vu une partie du match. La partie que j'ai vue, Bordeaux, il s'en sortait très très bien.
Oui, mais c'est ça problème, c'est qu'il
s'en sortait
joue,
très bien.
J'ai pas vu la fin.
La dernière demi-heure, je crois, où il y a le pénalty arrêté par Costil, plus le but qui fait, donc ça a dû terminer très mal. Mais en tout cas, je crois que c'était la première mi-temps, avait été vraiment très bien, quoi. D'ailleurs, ils menaient 1-0.
C'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas le sentiment qu'ils veulent délaisser la compétition, quoi. Voilà. Mais ils gagnent pas. Voilà.
Donc, je pense que les mecs, ils vont tous au bureau, ils vont faire leur job, et puis, ça. Ils sont pas impliqués.
En tout cas, pour l'instant, c'est bon. On est à mi-parcours, En Europa League, il y aura à peu près qu'une seule équipe qui peut passer sur les trois engagés. En Ligue des Champions, allez, on va espérer 2-3, quand même.
PSG Lyon,
le meilleur des cas, PSG Lyon. On va espérer.
Faut être optimiste parce que là,
2-3. Monaco est éliminé.
Monaco en Ligue Europa.
Oui, on a gagné. On ferait éliminer la Ligue des Champions.
On ferait cette émission dimanche prochain.
On verra.
De toute façon,
on verra début décembre.
Il y aura
deux journées de passé.
Si ça se trouve, peux très bien avoir un gros match de Lyon qui bat Offenheim, qui est presque qualifié.
Ils peuvent le surprendre.
Une victoire de.
Ça se trouve, dans un mois, tout le monde dira bon, ça va être la finale de
Lyon, mais ils peuvent le surprendre, on sait jamais.
C'est ça, heureusement. C'est ça. Bon, niveau championnat, donc on va pas revenir.
PSG Marseille.
Alors justement, Marseille, Montpellier, vous avez des commentaires à dire, Saint-Étienne, Lyon.
Moi, sur l'ensemble, l'équipe qui m'a le plus impressionné, c'est Lille. Je pensais pas qu'ils arriveraient à ce niveau-là.
Dans les promus, Nîmes, qui pratique un bon football et qui ont gagné hier à
celui qui est capable de nous donner ceux qui seront sur le podium à la fin et ceux qui descendront, enfin, l'état actuel des choses.
Je pense que tous voient Monaco mal engagé.
Ils vont remonter.
Hein.
Je pense qu'ils sont cramés là. Ils sont cramés.
On a le message vidéo électronique qui enregistre ce que t'as dit parce que Guingamp, pour moi, c'est pas fait.
Ils peuvent remonter.
Après, il n'y a pas une équipe qui sort forcément du lot quand on voit les résultats. Il n'y a pas une équipe.
Non. Ouais, tu vois, moi, s'il y a tant parlé, c'est Lille, et effectivement.
Ouais, il y a Lille.
Montpellier aussi qui.
Non, moi, c'est
Montpellier. C'est éphémère, Montpellier.
Je pense que c'est Montpellier
actuellement, c'est une équipe qui tombe bien.
Il y a 15 jours, même si on est encore qu'à la 13e journée, là, ce qui fait quand même
un tiers. Du championnat, quand même.
Je l'avais déjà dit dans la dernière fois qu'on en a parlé, je sais plus si c'est en on ou en off. Mais en tout cas, Montpellier, c'est vraiment, j'y crois, parce que Montpellier, il a changé. Il avait une équipe béton l'année dernière, mais que, personnellement, je ne pouvais pas voir jouer un match. Mais là, il a changé. Il est passé à deux attaquants. Et il a recruté un milieu de terrain créatif, la Mollet de Metz, là. Et il a changé toute son attaque. Hein. Et là, il pratique un football pas mal. Il marque des buts, des super buts. Et ils sont là. On va voir déjà, premier gros test ce soir.
Ce soir,
c'est vraiment un gros match, quoi. Et si Marseille perd à Montpellier,
je pense.
J'irai même plus loin. Là, pareil, on peut faire l'arbitrage vidéo si tu veux. Si Marseille perd à Montpellier, je vois très très mal Marseille terminé sur le podium le truc de dire le championnat est faible donc ils vont y arriver, j'y crois pas.
Sauf que pour moi on me dit certes ça joue bien mais il reste 26 journées je compte bien. Il reste 26 journées.
Ils ont plus qu'espérer que Paris fasse un nouveau triplé pour aller chercher une place en Europa League.
4e ou 5e. Lille sera champion de France.
Comment?
Lille sera champion de France.
Ouais, mais il est
pour... enfin, à partir du deuxième. Ouais.
Oui, dans le championnat des
pots. Parce que le match était pas mal. Bon, ils ont été dominés, mais ça, quand ils ont le ballon, ils tripotent bien le ballon, tout même les Lillois.
Ça, ça me fait plaisir d'entendre ça de la part d'un Stéphanois, parce que là, pour le coup, tu parles comme. Oui, non, mais de la part de Lille, parce que tu parles comme Jean-Michel Aulas. Là, au moins.
Non, mais monsieur Aulas, le mec qui a voilé à vapeur, tant qu'il dominait tout, ça l'arrangeait bien. Il parlait comme un Parisien, enfin, faut arrêter. Faut rester terre à terre.
Il fait pas ça chez les filles.
Voilà, donc moi je critique pas Paris.
Ça dérange pas, hein,
la différence c'est que je critique Aulas, mais je critique pas Paris. Je donne mon point de vue en disant, quand je parle d'argent avec Paris, je dis pas, je suis pas jaloux parce que Paris est plein de thunes. Je dis que ça appauvrit notre championnat, que malheureusement,
que
nous, on manque d'argent.
Saint-Etienne, il y a une question. Voilà. Est-ce que tu penses pas que Saint-Etienne, justement, quand on parle, tout à l'heure, je parlais des recrutements et tout, tu penses pas que Saint-Etienne aurait eu les moyens ou la possibilité de faire un effectif petit peu meilleur?
Mais
je te pose la question.
Oui, je suis d'accord avec toi, mais nous, on sait que notre problème, de toute façon, à Saint-Etienne, on connaît notre problème. C'est nos deux présidents, c'est notre cellule de recrutement, mais nous, on est conscient du problème.
C'est pas pour attaquer, je dis ça, moi c'est la réflexion que j'ai sur la Ligue aujourd'hui, c'est
quand,
celle-là. Quoi.
Là, il y avait un repreneur à Saint-Etienne, quand ils ont su qu'ils touchaient le même montant des droits télé, ils ont dit tiens, on touche ça en droits télé, 70 000 ou 50 millions, je sais plus combien. Ils ont dit c'est ce qu'il nous fallait pour faire vivre le club, on va pas le vendre.
Un club comme Bordeaux a touché 35 millions cet été.
Donc ce que tu dis, je pense pas que ça nuit aux autres équipes que le PSG, justement, c'est un moteur. Les droits télé, toutes les équipes en profitent. Bon, bien sûr, celles qui passent le plus souvent en profitent plus, mais ça profite quand même aux autres équipes, le droit télé.
Je dis pas que ça ne profite pas.
D'accord. Pour l'instant, rien du tout.
Mais ça laisse le championnat pauvre. Personne va venir dans ce championnat pour...
Pauvre au niveau sportif, on est d'accord.
Tu connais le budget de Saint-Etienne?
Oui. Une petite précision quand même, les droits télé dont on parle, qui passent de 738 millions
d'euros. Ça va changer
à 15 milliards d'euros. C'est à partir de 2020, la saison. Parce que souvent, tout le monde dit les droits télé, Neymar, machin et tout. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle où on parle, il n'y a aucune influence, en tout cas sur les budgets, par rapport à l'augmentation ces droits télé. C'est normalement, bon, après, pour anticiper à partir de 2020, mais c'est à la fin de la saison, donc je pense 2021. Que les clubs vont truc, et comme je le disais tout à l'heure, pour imaginer à peu près, c'est à peu près 1,2 la multiplication. Donc un club comme Bordeaux a touché 35 millions, Marseille par exemple a touché 52 millions je crois cet été, et peut espérer 70-75 millions.
Très mathématique ce matin.
Pour les droits télé. Voilà. Ça permet, bien sûr.
Alors, juste avant d'envoyer la pub, est-ce que vous avez suivi les matchs de Coupe de la Ligue? Ça vous a plu, non?
Je comprends votre réaction
parce que le meilleur, il a été remis, donc il n'a pas été joué le meilleur.
Il n'a pas eu de choix, Bibi. Alors, justement, ça démontre qu'on délaisse un peu cette époque, parce que quand on voit Nantes qui va gagner à Montpellier 3-0 ou Strasbourg qui bat Lille 2-0, c'est que.
C'est une question de culture.
On n'a pas joué.
On en parlait tout à l'heure. Voilà. C'est une question de culture. Voilà. Et qui veut dire que la Ligue Europa, par exemple, ça n'intéresse pas les clubs.
C'est aussi une question de football. À part en Angleterre, la Coupe de la Ligue dans le football européen, ça n'existe pas. Hein.
Voilà, c'est pour ça.
C'est vrai.
Allez, la pub, cette fois-ci, pour faire plaisir à Arnaud.
Ah, merci.
Vous voulez vendre, acheter un bien sur Aufargis, Le Perret ou Vieille Église? Appelez Pierre Burtel, votre agent conseil en immobilier, au 06 43 27 13 08 et bénéficiez des honoraires réduits de l'agence ImmoJuste. Pierre Burtel au 06 43 27 13 08.
Il n'y avait plus cette petite flamme entre nous. Je le trouvais vieilli, terne, ennuyeux. Bref, je pouvais plus le voir. Alors je l'ai remplacé. Et celui-là, il a vraiment tout ce qu'il faut. Brillant, classe. Je ne me lasse pas de le regarder.
Plafond fissuré, vieilli, peinture et caillé. Avec Creative Design, le spécialiste du plafond tendu, changez pour un plafond séduisant. Mat, brillant ou satiné, Creative Design pose votre nouveau plafond dans la journée. Sans poussière et sans odeur.
Une œuvre d'art.
Rendez-vous sur creativedesign.fr 01 58 88 21-20.
DMP Doc des Matériaux du Perret, votre spécialiste des matériaux de construction à votre service depuis 1996. Professionnel et particulier, DMP est distributeur et storiste des grandes marques pour tous vos matériaux, le bois au détail, le métal et l'outillage. DMP, c'est le conseil, la disponibilité et la livraison toute quantité. DMP Doc des Matériaux du Perret, 10 rue Roseau au Perret en Yvelines. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à midi et de 13h30 à 18h, ainsi que le samedi de 8h 18h à midi. DMP Doc des Matériaux du Perret, 01 30 46 30 97.
Bon, messieurs, l'équipe de France accrochée 2-2 contre l'Islande. Mbappé qui est décisif lorsqu'il rentre. Et puis qui bat l'Allemagne 2 buts à 1. Demi-temps complètement différente. Vous en pensez quoi? Mais l'équipe de France ne perd pas.
Bah, c'est notre équipe de France.
Oui, oui.
Elle continue dans sa lancée.
Elle continue.
Moi, je pense que...
Elle joue pas toujours très bien, mais elle est là. Oui, voilà, ouais. C'est tout. C'est ce qu'on lui demande. Elle fait mieux.
Le seul qui avait vu juste, c'était Bibi. Nous, on était un peu douteux. Mais voilà, le seul qui était confiant à 100%, c'était Bibi.
Bon, voilà. il y a un match qui l'attend aux Pays-Bas, donc au mois de novembre, pour la Ligue des Nations. Hein, bah, pour probablement finir première de la poule.
À la fin, ils vont aux Pays-Bas, je pense.
Ils ont une très belle équipe, les Pays-Bas, quand même.
Ils perdent pas. Ils sont qualifiés. On va les jouer pour gagner un nouveau trophée en juin prochain. Donc voilà.
L'Allemagne est vieillissante.
Tout va bien. Alors justement, ça tombe bien, Stéphane, parce que début décembre, on aura donc les tirages au sort des groupes des phases donc de poule pour l'Euro 2020.
Mmh. Exactement.
Donc pour les qualifications.
Oui. C'est ça,
avec un mode de qualification qui change un tout petit peu dans le sens où il va y avoir les quatre dernières équipes, les deux premiers de chaque groupe des 10 groupes sera qualifié directement, et les quatre dernières équipes, ça sera un tournoi sous forme de match aller-retour avec entre les 16 vainqueurs des 16 groupes de la Ligue des Nations.
Mais ça, par contre, depuis ce matin, on fait des maths, on calcule les points, on calcule les budgets. Ouais. Mais ça, maintenant, les qualifications pour l'Euro, c'est inadmissible. C'est quasiment impossible à comprendre. Donc, ça va dans tous les sens. Il y a des histoires de barrages avec la Ligue des Nations. Il y a des histoires de barrages avec les éliminatoires. Après, tu remets les mecs par-ci, par-là. C'est bon.
Les mecs, c'est très facile à comprendre. C'est très facile à comprendre.
D'accord,
t'as 10 groupes. C'est pas que t'es bête, je pense, c'est juste que t'as pas essayé de lire. Ouais. C'est que t'as 10 groupes, t'as 2 équipes qui se qualifient par groupe, il reste 4 places. Les 4 places, il y a un tournoi qui va réunir en mars, en mars 2020, les 16 équipes qui ont remporté chaque groupe les 16 groupes de Ligue des Nations. Et puis match aller-retour, ils sont 16 au début, ils sont 8 après, ils sont 4 à la fin, les 4 vont à l'Euro.
Eh ben, c'est bien, on en parlera la semaine prochaine et puis, le mois prochain, puis on parlera aussi du Ballon d'Or. Hein. Tout ça au programme du foot, hein, Stéphane.
Tout à fait, ouais. Tout à fait.
Très bien. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir toujours été autant passionnés. Puis enflammés. Rendez-vous le 2 décembre, on aura encore une riche actu. Merci à Bastien, puis Jean-Claude, on se retrouve la semaine prochaine.
Oui, tout à fait.
Pour parler donc du variété à nouveau.
Avec une très bonne équipe du variété.
Voilà. On aura la composition d'équipe. Bon dimanche à toutes et à tous. Et puis rendez-vous la semaine prochaine. Ça sera Tribune Sport la semaine prochaine. Salut.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu. RVE, bonne matinée. Il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Les bureaux de vote ferment dans une heure en Nouvelle-Calédonie. Les près de 175 000 électeurs doivent répondre à une question. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? L'île dispose actuellement d'une large autonomie et reçoit chaque année plus d'un milliard d'euros de financement de Paris. Emmanuel Macron doit s'exprimer à 13h dès que les résultats seront officiels. Le président français qui est à Strasbourg aujourd'hui, début de l'itinérance mémorielle. Selon les mots de l'Élysée, dans l'Est et le Nord de la France, une tournée inédite pour célébrer le centenaire de la fin de la Grande Guerre. De Verdun à la Somme, le chef d'État va sillonner 11 départements en une semaine pour